Ben, salut tout le monde! Approchez! Si vous voulez voir Nicolas, il y a le même. Bon, bienvenue, mon nom c'est Véronique, je suis dans le collectif de la Page Noire, ainsi que plusieurs autres personnes qui sont ici. Ce soir, c'est le collectif de la librairie de la Page Noire, dans le fond où vous êtes, et le collectif Anarchiste la Nuit qui vous ont invité à ce 5 à 7. La Page Noire, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le lieu, c'est une librairie anarchiste, autogérée, donc où vous pouvez trouver toutes sortes de livres à acheter ou à emprunter dans la bibliothèque. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Pour plus de 10$, vous avez le droit d'emprunter tous les livres que vous voulez dans la bibliothèque. Et les ouvertures sont sur la porte si vous avez le goût de changer avec nous. Ce soir, le 5 à 7, on essaie de faire à chaque mois ou deux mois des 5 à 7. Des fois, des 5 à 7 thématiques, des fois seulement des événements qui sont 5 à 7 de type social. Ce soir, on avait envie d'entendre parler de services publics parce que c'est pas mal d'actualité. Justement, le dernier numéro de Compte commune, le journal du collectif Anarchiste la Nuit, en fait, et plutôt de l'Union des communistes libertaires, porte sur ce sujet-là. Donc, non seulement on va souligner le lancement du numéro que vous allez tout le monde pouvoir vous procurer gratuitement, mais on a invité le collectif à nous faire une présentation sur le sujet, puisqu'ils sont en train de faire une réflexion justement sur les services publics dans une société libertaire. Donc, c'est Nicolas du collectif qui va faire tout ça et qui va animer la discussion après. Donc, je vais
t'accompagner.
J'ai oublié de souligner qu'il y a de la bouffe qui était faite par Geneviève. Merci Geneviève. Donc, avec Thomas et plein d'autres membres, je ne savais pas. Fait qu'il y a Jeanne et pas si vous avez fait.
Oui, donc, c'est ça, le journal, il est là, si vous voulez. En fait, c'est pas le numéro spécial sur les services publics, ça se donne qu'il y a deux textes dedans. En fait, il y a trois textes qui traitent grosso modo de ça, mais c'est parce que, bon, il a été préparé, notamment avec en tête qu'on allait en passer 2-3 000 copies le 12 mars, donc on s'est dit que ça aurait du sens de faire ça là-dessus. Mais il y a un numéro, effectivement, qui a porté essentiellement sur le budget où les réflexions sur les services publics sont plus élaborées, puis il doit en rester des copies là, sinon il y en a sur notre site. Donc, le service public, effectivement, c'est très d'actualité en ce moment, et c'est d'actualité depuis... On va entendre dans le fond.
Si vous êtes comme Mathieu et que vous n'avez pas pu vous procurer une bière, c'est le moment ultime où le faire.
C'est le moment idéal. Donc, les services publics, c'est d'actualité parce que il y a des attaques frontales sur les services publics et sur toute la solidarité sociale au Québec. Depuis 2 ans, dans le budget, des nouvelles attaques parce que depuis une vingtaine d'années, il y a des attaques aux services publics. Et il y a des luttes, en fait, qui se développent sur toute la question de la tarification, de la privatisation, des hausses de frais et tout. Et puis, comme on est très impliqué dans ces luttes-là, on s'est dit que, bon, comme collectif anarchiste, qu'est-ce qu'on pouvait amener? On pourrait peut-être amener une réflexion sur les services publics parce que les services publics, ben, c'est pas sans contradiction. C'est-à-dire que l'expérience qu'on a tous et toutes avec l'État n'est pas strictement positive. C'est vrai comme ça. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un service public? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer sur cette joyeuse question? Première question, c'est quoi un service public? De quoi on parle?
D'accord. On sait ta réponse.
Oui, non, mais c'est pas grave, parce que c'est plus le fun si on le fait ensemble. Parce que sinon, je vais juste faire un cours magistral.
Je dirais quelque chose qui est pour tout le monde.
Quelque chose qui est pour tout le monde.
Moi, je dirais quelque chose, par contre, c'est de l'État. Parce que d'habitude, le public, c'est pas le communautaire, par exemple. Ni le caritatif.
Donc, une chose, un service.
Un service offert par l'État.
Offert par l'État. OK. Effectivement, ça rentre là-dedans. C'est un service, c'est une activité, en fait, qui est, d'après, si on se fie à la définition qui est sortie par la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, effectivement, eux, ils disent qu'un service public, c'est une activité qui est exercée ou contrôlée par l'État, mais c'est pas n'importe quel type d'activité, c'est une activité dont le but est de satisfaire un besoin d'intérêt général, effectivement, donc qui profite à tout le monde. Ça, c'est le premier bout. On pourrait avoir une définition un peu plus large en parlant d'administration publique plutôt que d'État, parce que ce n'est pas nécessairement l'État, ça peut être des sociétés d'État. Et il faudrait voir s'il n'y a pas lieu de faire une distinction entre programmes sociaux, services publics, et dans les services publics, entre les services d'utilité générale et les trucs qui sont plus de l'ordre des sociétés d'État, comme par exemple, et qui impliquent donc un rapport marchand, comme par exemple Hydro-Québec. Donc, ça, c'est un service public. Là où on arrive sur les services publics, on dit aussi, du côté de la coalition, que plusieurs services publics sont en lien, en fait, avec la réalisation de droits humains et ils assurent, en fait, un accès à tout le monde à ces droits-là et ça contribue à la solidarité et à la cohésion sociale. Et c'est là qu'on frappe le premier nœud, la première contradiction des services publics. Et en fait, c'est la contradiction fondamentale, c'est que les services publics, comme ils sont structurés dans la société, sont à la fois de l'ordre de la conquête sociale, c'est quelque chose qui est imposé par les luttes, qui n'est pas nécessairement de soi, et qui effectivement garantit un droit, mais c'est aussi un instrument de contrôle social et de régulation dans la société capitaliste, qui permet en fait d'intégrer les gens. Et donc, les services publics, dans les sociétés capitalistes avancées, sont utiles autant à nous, au peuple en général, qu'à l'élite. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, la question de l'éducation ou la question de la santé, qui sont en fait les deux principaux services publics offerts, gérés par l'État québécois, ben c'est sûr que c'est de l'intérêt général d'avoir accès à l'éducation, c'est sûr que c'est de l'intérêt général d'avoir accès à un système de santé gratuit, mais c'est aussi de l'intérêt de l'élite qu'il y ait des gens qui sont minimalement formés pour faire œuvre de main-d'œuvre et donc pour travailler et qu'il y ait des gens qui soient minimalement en santé, qu'il y ait des conditions de salubrité minimale. Donc, ça sert aux deux, c'est la contradiction, c'est ce qui fait que plusieurs anarchistes, plusieurs radicaux vont prendre une tangente de dire les services publics, c'est l'État, c'est du contrôle social, c'est de la merde, ça vaut pas la peine de les défendre. Et pour la même raison, mais à l'inverse, il y a plusieurs réformistes qui vont strictement défendre le statu quo sur les services publics parce que bon, ça permet de rendre des services. Donc, actuellement, les services publics sont attaqués. S'ils profitent autant à l'élite qu'au peuple, reste pour la question, pourquoi est-ce qu'ils sont attaqués?
Parce que c'est gratuit, c'est pour ça
qu'ils sont attaqués.
Parce que c'est gratuit.
Oui, il y a ça en partie. Si on reprend des terminologies un peu vieilles et un peu à faire peur, mais on va les prendre pour le fun, mon camarade ici dirait que c'est à cause de la baisse tendancielle du taux de profit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Concrètement, là, c'est que dans la société dans laquelle on vit, c'est pas suffisant de faire de l'argent, il faut en faire toujours plus. Et actuellement, dans le cadre de la mondialisation, on fait pas toujours plus d'argent. En fait, en ce moment, on a tendance à en faire un petit peu moins à chaque fois, à un point tel où, par exemple, si vous lisez les grands journaux, en ce moment, ils commencent... en fait, ils sont presque à la fin de nous en parler, là, mais ils nous ont parlé beaucoup de retraite puis de REER dans les deux derniers mois à cause que c'était le temps de cotiser. Et là, tout d'un coup, ils ont fait une découverte fondamentale, c'est-à-dire que le boomer, quand il cotisait à son régime de retraite, quand il cotisait à son REER, il devait cotiser à peu près 4% de son revenu pour s'assurer une retraite relativement confortable, arrivé à 70%. Parce que la bourse, ça marchait bien, puis parce qu'il y avait possibilité de faire de l'argent avec les REER. Puis là, ben là, il semble, là, d'après les dernières analyses des actuaires, puis des économistes, puis de tout ce beau monde-là, que quelqu'un qui a 25 ans aujourd'hui, puis qui voudrait profiter du même taux de retraite, il faudrait qu'il mette 30% de son salaire, pour 40% de son salaire en épargne pour pouvoir retirer 60% de son salaire à la retraite. Donc, c'est dire donc que la bourse actuellement a tendance à rouler un peu moins fort que dans les années 70-80. Et donc, le capital est toujours à la recherche de nouveaux marchés. Il y a une dizaine d'années, on a beaucoup parlé de mondialisation. Il y avait le sommet des Amériques, la SLEA, avant ça, il y avait l'ANI. On en parle un petit peu moins parce qu'on a des attaques nationales, fait que c'est moins à la mode. Mais dans le cadre de la mondialisation, en fait, il y a deux principales places parce qu'on fait pas de fric actuellement, parce qu'on pourrait faire du fric et qui sont attaquées directement. Tu as d'un côté le vivant, directement la marchandisation du vivant avec bon, les OGM et compagnie. Et de l'autre côté, tu as les services publics qui sont transformés en marché public si on lit notamment les accords européens. Donc, qui sont dans la mire pour pouvoir mettre la main dessus pour faire du fric avec. Donc, l'idée, c'est pas tant de les détruire que de trouver une manière de faire de l'argent avec. Ce serait une manière intéressante. Et effectivement, à part quelques idéologues libertariens ou d'extrême droite, il n'y a personne qui propose, qui veut réellement abolir les services publics ou complètement les privatiser. C'est pas ça. Parce que, d'un côté, c'est intéressant pour la compétitivité économique du Canada d'avoir des services publics. Mais essentiellement, en fait, l'enjeu réel, c'est pas tant leur abolition ou de les déprivatiser complètement. L'enjeu, en fait, c'est de nous faire passer l'ensemble des coûts aux utilisateurs et de pouvoir faire un maximum de fric avec. Et d'ailleurs, c'est très idéologique et on arrive à des situations cocasses. Parce que par idéologie, on pense qu'on va pouvoir faire du fric avec ça. Et on cherche des manières à ce que nos capitalistes locaux puissent faire du fric avec ça. Si on prend par exemple le cas du CHUM à Montréal, où on a voulu faire la construction en PPP, en partenariat public-privé, puis qu'il y ait des firmes qui fassent de l'argent avec ça. Là, ça prenait des firmes capitalistes au rang assez solide. L'État québécois, les libéraux, ils se disaient, les firmes d'ingénierie québécoises, ils vont faire du fric avec ça, puis ça va être bon pour leur place, leur compétitivité internationale, puis après ça, ils vont pouvoir bider en Angleterre, en France, sur des PPP et tout. Et c'est en le mettant en PPP qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas une firme québécoise qui avait les reins assez solides pour faire ça. Et ça explique entre autres le retard dans la construction du CHUM, parce que là, ils se sont rendus qu'il y a juste des multinationales qui sont capables de le faire. Ils sont capables, qui ont assez de capitaux pour dire oui, on est prêt à prendre le risque et oui, on est prêt à le faire. Donc, des fois, l'idéologie se heurte à la réalité. Et donc, c'est ça. Donc, l'enjeu de la bataille, c'est de nous transférer l'ensemble des coûts. En fait, de faire payer les gens deux fois et de rendre des services lucratifs pour le milieu des affaires. Puis ben, là, après ça, c'est de voir quel milieu des affaires, quelle élite. Donc, le Parti libéral du Québec aurait peut-être aimé que ce soit ses contributeurs, mais il y a des fois où est-ce que finalement, même ses contributeurs n'ont pas les reins assez solides pour le faire. Donc c'est ça. C'est le portrait général très brièvement. On peut se demander dans ce contexte-là quel est l'intérêt pour les libertaires, quel est l'intérêt pour les radicaux de s'intéresser à ça. Puisque bon, on parle dans le fond, on parle de l'État, on parle du grand capital et tout. Donc, nous, quel intérêt on a là-dedans? En quoi c'est intéressant dans une perspective radicale? Ben, d'une part, en gros, c'est le même intérêt que pour tout le monde. C'est-à-dire que les services publics dans nos sociétés, ils font partie du salaire social. C'est-à-dire que ça fait partie, en fait, c'est des éléments de redistribution de la richesse et de justice sociale. Et c'est des choses que, comme ils sont accessibles à relativement bas prix, ben ça coûte beaucoup moins cher que si on devait le faire individuellement. Donc, ça participe directement de notre niveau de vie. Donc, il y a ça. Mais il faut voir qu'effectivement, c'est un enjeu contradictoire. Si on s'arrête juste à ça, le risque est grand de finir comme dans Chomsky ou Normand Baillargeon et de dire que l'État, c'est une prison, mais que c'est le fun que ce soit une prison parce qu'en dehors des barreaux, il y a des fauves, puis que si on abolit la prison, ben, on va se faire bouffer tout rond. Donc, de terminer dans une perspective strictement réformiste et de finir par appeler à voter pour Québec solidaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce contexte-là? Ben, nous, on pense que pour rendre ça vraiment intéressant, puis pour que ce soit utile, puis pour que ça progresse, les luttes sur les services publics, ben, il faut trouver une manière de subvertir le service public. De subvertir dans le bon sens, parce que les capitalistes aussi subvertissent le service public, mais ils travestissent, disons. Et donc, il faut pouvoir les défendre, mais aussi aller plus loin que le statu quo et faire une critique du service public tel qu'il se présente, une critique de... Donc, c'est ça. Puis, pour nous, il semble qu'il y a deux affaires, deux éléments de rupture qui semblent intéressants dans le service public et qui peuvent permettre de rompre avec la logique en jeu. Et dans la contradiction des services publics, c'est quelque chose qui nous semble porteur, puis qu'on peut, sur lequel on peut appuyer pour peut-être faire des avancées. Donc, la première, c'est la question de l'autonomie et de la gestion des services publics. Actuellement, c'est l'État qui contrôle et qui gère les services publics. Il fait des fois en délégation, mais dans les faits, il contrôle et gère. Et de plus en plus, il resserre le contrôle et la gestion des services publics. Même si nominalement, il y a des administrations indépendantes, les cahiers de charges sont de plus en plus importants et c'est de plus en plus difficile de sortir de ce qui est prévu au national par l'État. Donc, il y a ça. Puis en plus, actuellement, peu importe le secteur, l'État libéral a tendance à vouloir réduire la participation des secteurs populaires, en fait des secteurs qui ne sont pas du milieu des affaires dans la gestion des services publics. Ils veulent réduire le nombre de représentants des salariés, le nombre de représentants des usagers sur les conseils d'administration pour les remplacer par soit des représentants du milieu, soit directement des représentants du milieu des affaires. Et donc un maximum d'amis du privé, ou carrément remplacer les conseils d'administration et déléguer la gestion au complet d'un service public au secteur privé, donc en partenariat public-privé. Puis c'est ça, on peut le voir en éducation, en santé, entre autres. Et une des choses sur la question de l'autonomie qui nous semble intéressante puis qui ressort de plus en plus, c'est que non seulement il y a une question de sous-financement, il n'y a pas assez de fric pour faire ce qu'il y a à faire, il y a un sous-financement qui est planifié pour détériorer le service public, pour que ce soit tellement merdique qu'on finisse par dire « mieux vaut le donner au privé », qui va être tellement mieux que le public pour le faire. Donc, il y a un problème de sous-financement, mais il y a aussi de plus en plus un problème de mauvais financement et de mauvaise gestion du service public. On se retrouve, on peut penser à l'Élo Voyageur ou au CHUM, ou on peut penser dans les cégeps de plus en plus. Le budget de publicité, par exemple, prend des proportions hallucinantes, alors que ça n'a rien à voir avec la mission fondamentale. Et donc, nous, on pense que pour renverser la vapeur, une des choses qu'on peut faire, c'est revendiquer l'autonomie des services publics et leur autogestion. Donc ça peut être intéressant. D'autant plus que dans la majorité des cas, les salariés sont organisés. Dans la majorité des cas, les usagers le sont aussi. Et donc, il y aurait possibilité de faire des points intéressants à ce niveau-là. L'autre enjeu qui est très important, c'est de plus en plus une marchandisation, une logique marchande qui s'introduit dans le service public, entre autres par le biais de la tarification. Donc, c'est tout l'enjeu de la gratuité et de l'universalité des services, donc qui nous semble intéressant. Parce que, actuellement, là, comment qu'on fonctionne, on veut nous faire payer deux fois pour les services publics. On veut nous faire payer une première fois via l'impôt, les taxes et tout ce qui vient avec, une deuxième fois via une tarification pour introduire une logique de marchandisation. Et donc, on organise la rareté. Puis pour casser ça, il y a une possibilité en revenant au niveau du principe d'universalité et de gratuité, donc des services qui soient accessibles à tout le monde sur l'ensemble du territoire, peu importe le revenu disponible. Et là, on peut se demander si ces revendications-là sont strictement réformistes. Nous, on aurait tendance à penser que non, parce que, en fait, pour nous, être révolutionnaire aujourd'hui, c'est d'être un, au cœur des luttes sociales, là où effectivement il y a conflit, où il y a conflictualité, mais c'est aussi d'essayer d'identifier les potentiels réels d'autonomie et de rupture, pour des ruptures autogestionnaires. Puis là, dans les textes qu'on a sortis, il y avait quelque chose qui nous avait apparu intéressant, des camarades d'une organisation française, l'OCL, l'Organisation communiste libertaire, qui disait, si on affirme que l'économie doit avoir pour objectif la création de biens et de services utiles à chaque individu et non d'engendrer des profits pour une minorité, c'est également démontrer que tout devrait être service public et dénoncer le caractère arbitraire de ce qui est actuellement défini comme tel. Donc si l'éducation c'est un service public, si la santé c'est un service public, si on étend les sphères à ce niveau-là, à ce moment-là, si un service public c'est un service d'intérêt général qui est administré en dehors de la logique du marché, à ce moment-là, pourquoi est-ce que tout ce qui est d'intérêt général ne serait pas? Donc, c'est ouvrir une porte à ce niveau-là. Et puis pour finir, on a deux choix. Ou bien là, on parle des enjeux de lutte actuels, puis on lance la discussion là-dessus. Ou bien là, on parle de service public dans une société libertaire. Puis on y va là-dessus. Juste vous dire, si vous voulez aller un peu plus loin dans la réflexion, nous autres, on avait produit un paquet de réflexion pour, à l'interne pour notre propre réflexion qui est ici, qu'on peut laisser aller au cost, c'est-à-dire 2$. Ça va éventuellement se ramasser en livre, là, mais pour l'instant, c'est ça. Quand ça va être en livre, il va être plus beau, il va avoir une page couverture couleur.
Des textes de réflexion.
Il va y avoir nos textes de réflexion et d'autres choses, mais là pour l'instant il y a ça.